Un surveillant du camp est agressé le 13 mai. Il a été attaqué par un détenu avec un stylo. Les syndicats en appellent au pouvoir public après cette nouvelle agression. L'actualité politique du week-end avec demain toute la journée à Païta, le séminaire d'échange et de travail organisé par les loyalistes en vue des élections provinciales du 28 juin. La commune de Bouloupari est animée aujourd'hui. Une démonstration de fun car a pris place sur le terrain de motocross au plus grand plaisir des passionnés de sport mécanique qui sont venus en nombre. Donald Trump a quitté la Chine après une visite de 2 jours. Il dit avoir conclu des accords commerciaux fantastiques avec Xi Jinping, le président chinois qui a salué une visite historique qui fera date. L'actualité en métropole et un élève gardien de la paix grièvement blessé à Paris, hors service au moment des faits. Le jeune policier qui a été violemment frappé est roué de coups. Le sport avec le rugby, on joue ce week-end la 24e journée du top 14. Il y a des enjeux à tous les étages, à 3 journées maintenant de la fin de la saison régulière. Et puis en Calédonie, les meilleurs triathlètes avaient rendez-vous pour l'aquathlon de l'Olympique ce matin. La victoire est revenue à Timothée Héroux chez les messieurs. Charlotte Robin l'a emporté chez les dames. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal au chapitre des faits divers. Cette rixe hier soir dans un établissement de nuit de la baie des Citrons, aux environs de 2h du matin. Un individu en état d'ivresse a provoqué une bagarre. Le perturbateur a été rapidement interpellé par les forces de l'ordre et placé en cellule de dégrisement. Aucune plainte n'a pour le moment été déposée auprès des services du commissariat central. Et puis je vous le disais en titre, une agression qui aurait pu virer au drame. C'était cette semaine au camp Est. Un agent pénitentiaire a reçu un coup de stylo à la gorge de la part d'un détenu. Les faits se sont passés mercredi, le 13 mai. Les syndicats ont communiqué hier sur cet événement via leur page Facebook. Parmi les lanceurs d'alerte, Michaele Califailila, il est secrétaire local de l'UFAP UNSA Justice.
Ça fait depuis l'année dernière qu'on alerte sur les risques qu'encouraient nos collègues au centre pénitentiaire de Nouméa. Et mercredi, en fin d'après-midi, donc au moment du service de repas, on a un collègue qui s'est fait agresser à l'ouverture d'une cellule. Ben, tout simplement, il a ouvert la porte, donc faut savoir qu'il avait déjà été menacé par la même personne détenue la veille. Et à l'ouverture de la porte des cellules, en fin d'après-midi, la personne détenue lui a asséné un coup de stylo au niveau de la gorge. Clairement, pour nous, c'est une tentative d'homicide. Donc, physiquement, ça va, puisqu'il a réussi à se défendre et puis à éviter le pire, puisque la blessure n'est que partielle. Mais c'est uniquement par ses réflexes qu'il a été sauvé et par l'intervention des deux collègues qui étaient sur place.
Michaele Califailila, le secrétaire local de l'UFAP UNSA Justice. Le détenu à l'origine de l'agression fera l'objet de sanctions disciplinaires. D'autres syndicats ont dénoncé les faits et Faux Justice notamment. Ils déplorent tous un manque de moyens pour travailler en sécurité et réclament notamment un renforcement des effectifs. Venons-en à l'actualité politique avec ce séminaire d'échange et de travail organisé demain tout au long de la journée par les loyalistes dans la perspective des élections provinciales du 28 juin. Au programme de ce séminaire qui se déroulera au Rivelande de Païta, diverses prises de parole, une information sur les procurations ainsi que des ateliers politiques. Le FLNKS a lui réaffirmé son opposition à l'ouverture du corps électoral pour les natifs et les conjoints hier lors d'une conférence de presse et il répète qu'aucune modification ne peut intervenir en dehors d'un accord global. En vue des provinciales du 28 juin, chaque composante du front doit se retrouver pour l'élaboration dans les 3 provinces de listes d'ouverture indépendantiste. C'est le cas de l'Union calédonienne qui tient aujourd'hui à Moindou un comité directeur. Il se tient à huis clos. Il devait être en partie consacré à la préparation des élections provinciales. Dans l'actualité ce soir également, le grand retour du fun car à Bouloupari. Après 2 ans de pause, l'association sportive mécanique de Bouloupari a organisé une démonstration aujourd'hui. L'événement a attiré beaucoup de passionnés de sport mécanique, Charlotte Coulson.
Des moteurs qui hurlent et de la poussière qui vole, c'est à cela qu'on reconnaît un regroupement d'adeptes du fun car. Et qu'est-ce que le fun car ? Eh bien, la discipline se rapproche du drift ou du rallye. C'est une voiture qui fait des tours et dérape beaucoup. Le but est surtout de glisser et de s'amuser. Selon le président de l'ASMB, Samuel Cheta.
Il y a plusieurs voitures qui viennent un peu du nord, de l'autre côte, de Nouméa. C'est un peu des gens de sens différents. On définit 2 tours par véhicule. Et puis dès qu'on voit qu'il y a moins de véhicules qui est en attente là, on leur fait faire 3 tours. On ne veut pas faire de compétition, après ça fait des... Non, c'est juste de la glisse, il vient, il s'amuse sur le terrain, il fait de la glisse, c'est de l'adrénaline. Ça rassemble les générations. Vaut mieux qu'ils font de la glisse là, les jeunes, comme on dit, sur le terrain, qu'ils font des bêtises en dehors. C'est pour ça qu'on a fait ce club au fait.
Il n'y avait donc pas de compétition organisée aujourd'hui. Il s'agissait surtout d'une démonstration pour rassembler, au plus grand plaisir des passionnés de glisse. Beaucoup sont venus encourager leurs proches.
Moi, je suis tout le temps là parce qu'il y a mon cousin qui roule. C'est impressionnant quand on regarde, mais ça aurait été mieux d'être dans la voiture.
Bon, il y a des copains, il y a le cousin qui fait, il y a les tontons. Voilà, on vient pour les regarder un peu, se défouler un peu, puis voilà. C'est un peu une passion depuis tout petit, quoi. Ben, ça fait plaisir d'avoir ici, là, dans cette commune.
Oui, on suit bien, surtout le fencar, voilà, parce que c'est une petite passion pour la jeunesse future. En fait, c'est amusant et puis en même temps, ben, ça rapproche vraiment la passion du fencar en particulier et pas d'un autre sport.
Et des jeunes aux plus vieux, il n'y a pas d'âge pour pratiquer le fencar. Aaron Juyo a tout juste 14 ans et prenait le volant pour la première fois devant un public ce matin.
C'était mon père quand j'étais tout petit, il faisait beaucoup ça. Et j'aimais bien le regarder, puis au bout d'un moment je l'ai demandé si je pouvais en faire. Il a attendu que je sois un peu plus grand pour commencer à m'apprendre. Là c'est la première fois que je tourne pour mon père. Première fois que je passais en public. C'était un peu stressant mais c'était bien. Faut essayer de pas faire des têtes à queue, sortie de terrain, essayer de rester dans le chemin, puis finir sans trop faire des bêtises.
Et la prochaine démonstration de Funcar à Boulou-Paris se déroulera au mois de juillet cette année.
Et on espère que vous serez dans les voitures, Charlotte. C'était une journée productive pour les bénévoles de l'association Gardiens des Îles. 436 pouces ont été plantés ce matin sur l'îlot Ange de Païta. Entre le Santal, le Gaillac, les pattes de poule, les espèces ont été choisies pour restaurer la formation végétale de l'îlot. Cette action a été réalisée dans le cadre du projet Connectil, coporté par l'association et la mairie. Nathanaël Ambroise est porteur du projet pour Gardiens des Îles.
Il y a eu à peu près 20 et 25 personnes qui sont venues, des bénévoles, il y a également des élus de Païta avec le maire qui sont passés faire un tour également pour nous donner la main. Comme les trous étaient déjà préparés, on a pu transporter tout le matériel déjà ce matin sur site, les plombs, l'hydrorétenteur, le paillage, etc. Et du coup, de planter les 436 plants qu'on avait prévu de faire. Le projet va continuer, bien sûr. Là, c'était la première action de plantation. On aura certainement l'année prochaine peut-être une ou deux autres plantations. Et le projet, bien évidemment, il continue avec des actions d'un autre type. Donc là, c'était restauration des formations végétales avec la plantation. Mais on aura encore de l'étude de fréquentation, de la sensibilisation, de la lutte contre les espèces envahissantes végétales. On aura également du suivi de l'environnement et de la collecte de déchets. Et enfin, de la mise en déchets.
Le projet Connectil qui tente d'apporter une solution à la fréquentation croissante des plaisanciers sur les îlots. Il y en a sept, à Païta qui sont sous la surveillance des gardiens des îles. Il est 17h54. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
À l'actualité internationale, Donald Trump a quitté la Chine après une visite de 2 jours. Il dit avoir conclu des accords commerciaux fantastiques avec Xi Jinping. Selon le président américain, la Chine a notamment promis de commander 200 gros Boeing, des propos que Pékin n'a pas confirmé. Xi Jinping, de son côté, a néanmoins salué une visite historique qui fera date, dit-il. Du côté du Proche-Orient, le président américain appelle l'Iran à conclure un accord. « Je ne vais pas faire preuve de beaucoup plus de patience », a déclaré Donald Trump à bord d'Air Force One. Parmi les points de désaccord, évidemment, la réouverture du détroit d'Ormuz, toujours bloqué par l'Iran, 2 mois et demi après le début du conflit. Dans ce contexte, les Émirats arabes unis, dépendants du pétrole pour le commerce d'hydrocarbures, annoncent l'accélération de la construction d'un oléoduc qui permettrait de contourner le canal d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, les pays de la région, tentent de repenser leurs routes pétrolières et commerciales. Explication Wilfried de Villers pour Europe 1.
Trouver des alternatives pour s'affranchir partiellement du moins d'une dépendance au détroit. Pour les Émirats arabes unis, cela passe donc par la construction d'un nouvel oléoduc. Celui-ci traversera le pays d'ouest en est pour déboucher dans le golfe d'Oman. La livraison du projet est désormais prévue pour 2027. Le pays peut déjà compter sur un premier oléoduc du même genre, tout comme l'Arabie Saoudite qui, depuis le début du conflit, fait transiter son pétrole vers l'ouest, vers la mer Rouge, comme l'explique Thierry Bross, spécialiste des questions énergétiques.
L'Arabie Saoudite avait déjà ce pipe qu'elle avait imaginé avant le problème du détroit d'Ormuz et qui aujourd'hui fonctionne à pleine capacité. Les Émirats arabes unis ont aussi ce pipe. Ils vont doubler en capacité.
Plus globalement, cette crise du détroit fait émerger une nouvelle géographie logistique. MSC, premier transporteur mondial de conteneurs, a initié en début de semaine une route commerciale reliant les ports européens aux pays du Golfe sans passer par les zones les plus sensibles. Ormuz et les côtes du Yémen.
Wilfried de Villers du service international d'Europe. Au Liban, les États-Unis annoncent une extension du cessez-le-feu avec Israël pour une durée de 45 jours. Annonce qui survient après 2 jours de négociations menées sous la supervision des États-Unis. D'autres pourparlers doivent aussi avoir lieu le 29 mai prochain sur l'aspect sécuritaire et puis les 2 et 3 juin prochains sur les questions cette fois-ci politiques. Dans la bande de Gaza, cette fois, l'armée israélienne dit avoir assassiné le chef de la branche armée du Hamas. Il a été visé par une attaque et par une frappe hier. Il avait succédé à Mohamed Sinwar en mai 2025. Il était considéré comme l'un des architectes des attentats du 7 octobre. L'actualité en métropole. Un élève gardien de la paix a été grièvement blessé à Paris. Ça s'est passé jeudi pour nous. Il venait d'empêcher un vol dans une boulangerie. Hors de son service au moment des faits, le jeune policier a été violemment frappé et roué de coups. Le suspect a été interpellé. Une scène de violence en plein cœur de la capitale. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Il tente d'empêcher un vol et finit à l'hôpital. Un peu avant 8h30, place de la République, dans le 3e arrondissement de Paris, un élève gardien de la paix hors service vient de quitter son poste après s'être senti souffrant. Dans une boulangerie, il assiste à une tentative de vol. Le jeune policier intervient. Il décline sa qualité de fonctionnaire. Le suspect prend la fuite. L'élève gardien de la paix se lance à sa poursuite. Il parvient à le rattraper quelques instants plus tard, mais tout dégénère. Selon une source policière, le suspect lui assène de nombreux coups, le projette au sol et lui dérobe son portefeuille, emportant aussi sa carte professionnelle. L'homme reprend sa fuite. Il est finalement interpellé quelques rues plus loin par des policiers municipaux en patrouille dans le secteur. Il est placé en garde à vue. Blessé, le jeune policier souffrirait d'un traumatisme crânien et de fractures aux côtes. Transporté à l'hôpital Percy à Clamart en urgence absolue, son pronostic vital n'est pas engagé.
Arthur Delaborde du service police-justice d'Europe 1. À Nantes, un adolescent est mort et 2 autres ont été blessés dans une fusillade. Il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Aucune interpellation n'a été effectuée à ce stade de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, s'est rendu sur place. Il affirme que cet événement renforce sa détermination dans la lutte contre le narcotrafic. La situation à Nantes qui a également été commentée par Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, département également très touché par les violences liées au narcotrafic.
Le crime organisé fait appel à des enfants pour tuer des enfants. C'est une machine à tuer des enfants que les narcotrafiquants ont mis en place. Donc on doit aussi aborder ces sujets comme des sujets concernant les enfants. Les enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement exposés parce que c'est eux qui sont recrutés. Je crois qu'il faut qu'on travaille aussi sur la connexion qu'il y a maintenant entre le proxénétisme et le narcotrafic, c'est-à-dire qu'il y a une diversification des activités. On a besoin de plus d'enquêteurs, plus de moyens d'enquête incontestablement, plus de présence dans les quartiers. Parce que tout ça arrive dans les quartiers qui ont été désertés par la prévention spécialisée, les actions d'éducation populaire. En fait, il n'y a plus rien entre les mômes et les trafiquants.
Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, invitée à d'Europe 1 Week-end. En bref, du nouveau concernant l'antivirus. D'après la ministre de la Santé, l'Institut Pasteur a réalisé le séquençage complet de la souche détectée sur une passagère française du navire Ondus. Les résultats sont plutôt rassurants. En effet, le virus analysé correspond aux souches déjà connues et surveillées en Amérique du Sud depuis de très nombreuses années. Aucun élément ne laisse penser à l'apparition d'un variant plus dangereux, indique la ministre de la Santé. Et puis la 70e édition de l'Eurovision, c'est demain matin pour nous. Elle se déroulera à Vienne, en Autriche. C'est la jeune Monroe, 17 ans seulement, qui représente la France avec sa chanson « Regarde ». Mathieu Prior pour Europe 1.
Monroe peut miser sur son époustouflante voix d'opéra pour épater les jurys. La Française, toute vêtue de blanc, est accompagnée de 5 danseurs. Sa prestation est un mélange de pop et d'opéra. Monroe explique le sens de sa chanson. «
Regarde parle d'amour universel, de trouver l'amour en soi et de trouver l'amour qui vous entoure. C'est très puissant et je sais que bien souvent nous sommes très occupés dans nos vies, mais lorsque nous prenons un instant, nous pouvons constater que cela peut être très rassurant et nous pouvons voir que l'amour qui nous entoure peut également nous fortifier. »
L'amour sera donc au cœur de sa performance. Les polémiques quant à la participation d'Israël au concours semblent cette année moins virulentes sur place. 5 pays boycottent néanmoins la cérémonie, dont l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande, qui eux ne la diffusent pas. Et l'on rêve d'une victoire française 49 ans après le sacre de Marie-Myriam. Les bookmakers, ceux qui parient sur les chances de gagner de chaque pays, classent la France dans le top 10.
Mathieu Prior pour Europe 1. Il est 18h02. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal. Ce sera la dernière. Dans un instant, nous allons parler sport en métropole, dans le monde, en Calédonie. Et puis nous parlerons également météo en Calédonie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et à la une de l'actualité sportive, la dernière ligne droite pour le championnat de France du rugby. On dispute ce week-end la 24e journée du top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et il y aura notamment un choc à suivre demain matin. Un choc entre le Racing 92 et le RC Toulon. Christopher Filoc pour Europe 1.
L'objectif est clair pour le Racing 92 dans cette fin de saison, sécuriser sa place dans le top 6, synonyme de qualification en phase finale du championnat. Et les Franciliens savent qu'une victoire face à leur adversaire du soir permettrait de faire un grand pas vers ces phases finales. En revanche, pour Toulon, 9e, eh bien les espoirs de se placer dans les 6 premiers semblent désormais très limités. Les Varois sont surtout engagés dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d'Europe. Et ça, Pierre Mignoni, l'entraîneur toulonnais, l'a bien compris.
On a envie de jouer la Champions Cup. Bien sûr qu'on est déçu de ne pas jouer les phases finales cette année en top 14. Je leur ai dit, là, il faut tout donner pour participer à cette compétition. Le challenge, il est là. Tu peux lancer une super dynamique aussi pour la saison prochaine. C'est à eux de se dire, voilà, allez, on y va, quoi. On se jette dans la bataille, allez, sans regret.
La situation est on ne peut plus claire. Si les joueurs de Pierre Mignoni s'inclinent ce soir, le Racing Club toulonnais pourra dire adieu à la qualification en Champions Cup.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1, la rencontre Racing 92 Toulon sera à suivre demain à partir de 6h. Les autres matchs à suivre, Pau-Clermont à 23h30 et puis en simultané à 1h35 du matin pour nous, Castres-Montpellier, Lyon-Bayonne, Bordeaux-Bègles-Perpignan et Montauban-Stade Français. Le dernier match opposera lundi matin le Stade Rochelet au Stade Toulousain. On passe au football et l'AS Saint-Etienne qui est désormais à 2 matchs d'une possible monter dans l'élite, Michael Juneski.
Oui, Saint-Etienne qui a remporté aujourd'hui le pré-barrage d'accession à la Ligue 1. Les Verts se sont imposés sur Rodez à l'issue des tirs au but. Le score était toujours de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Match indécis jusqu'au bout. Une séance de tirs au but à rebondissement avant de voir les Stéphanois l'emporter. C'est une première étape de franchie, mais il restera encore le grand barrage pour tenter de retrouver l'élite. L'entraîneur de Saint-Etienne ne savoure qu'à moitié cette victoire, car la tâche s'annonce encore plus dure au prochain cap. Philippe Montagnier.
On ne peut pas dire que ce soit bon pour le cœur, mais bon, il fallait rester calme. C'était aux joueurs de jouer et aux gardiens. On passe. Il va falloir forcément qu'on soit meilleur, parce que c'était un match quand même où on a eu très peu d'occasions de but. On en a concédé assez peu. C'est pas suffisant. On voit bien en fin de saison. Mais bon, ça n'explique pas tout.
Les Stéphanois qui feront face, on le rappelle, au 16e du classement de la Ligue 1 à l'issue de la 34e journée qui se jouera lundi matin pour les clubs de l'élite. L'AS Saint-Etienne peut miser sur cette future confrontation aller-retour pour essayer de retrouver la première division. Trois équipes dans un mouchoir de poche pour éviter cette 16e place. Actuellement, Nice, Auxerre qui est 15e et Le Havre qui est 14e.
Et puis notez dans les divisions inférieures que ce matin, le FC Sochaux Montbéliard a validé son billet pour remonter en Ligue 2, c'est le dernier classement général de National qui portera le nom de Ligue 3 à partir de la saison prochaine. Mais c'est bon de revoir Sochaux dans les plus hautes divisions de notre championnat. Un coup d'œil maintenant, Mickaël, au reste de l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale.
En MotoGP tout d'abord, on dispute ce week-end le Grand Prix de Catalogne. Lors des essais libres, c'est Pedro Acosta sur KTM qui a été le plus rapide. Du côté des tricolores, Joan Zarco s'est classé 5e, Fabio Quartararo 10e. Qualification et sprint race ce soir, le Grand Prix demain soir dès 23h pour nous. Du cyclisme, ce soir au menu la 8e étape du Tour d'Italie, le peloton attaque la montagne. Le Danois Jonas Vingegaard compte bien rattraper ses 3 minutes de retard sur l'actuel leader du général, le Portugais Alfonso Lalio. En tennis, une demi-finale a terminé au Masters 1000 de Rome. Le duel entre l'Italien Yannick Sinner et le Russe Daniel Medvedev a été interrompu ce matin par la pluie. Avantage au numéro 1 mondial, Yannick Sinner qui mène 4 jeux à 2 dans le troisième set chez les dames. La finale opposera également ce soir l'américaine Coco Gauff à l'ukrainienne Elina Svitolina. Et puis du golf, le deuxième majeur de la saison, le PGA Championship. Et à l'issue de la deuxième journée, deux Américains sont en tête, Alex Molay et Maverick McNally, les seuls à moins 4 coups sous le par.
Le sport en Calédonie à présent et les meilleurs triathlètes avaient rendez-vous ce matin à l'aquathlon de l'Olympique.
Un parcours avec alternance de 2,5 km de course à pied, 1 km de natation et à nouveau 2,5 km de course à pied entre le méridien et la promenade Pierre Vernier. Et un passage inédit, la montée du parking à étage du Grand Casino pour les coureurs. Chez les féminines, c'est Charlotte Robin qui l'a emporté. Chez les messieurs, Timothée Héroux s'est imposé. On les écoute.
Le parcours était très original, ça c'est sûr. C'était intéressant. Le parking du casino, bon, on avait peur de se prendre la tête dans le plafond, mais sinon c'est original. Pas mal de montées, le vent était un peu favorable au retour, mais c'était quand même assez dur. En tout cas, c'est vraiment un parcours sympa, et puis on a pris que du plaisir, et c'est top.
C'est assez violent parce que les 2,5 km en course à pied au départ, là, il faut partir vite, c'est court, donc c'est assez violent. Au final, c'est sympa de passer dans le parking du casino. Ça met une petite originalité. C'est vrai que je savais pas trop combien il y avait de virages, donc on tourne, on monte, mais on sait pas quand est-ce que ça s'arrête.
Charlotte Romain qui s'impose devant Nathalie Viratel et Myriam Jégot. Chez les messieurs, Timothée Roux l'emporte devant Karil Laigle et Mathieu Salamacha. 56 participants étaient en lice dans cette épreuve qui permettait aussi aux prétendants à une sélection en vue des Jeux du Pacifique de valider leur place au prochain test event afin de préparer Tahiti 2027.
Allez, on arrête de nager, mais on continue de courir avec de l'athlétisme. On disputait la suite des championnats territoriaux. C'était au stade du Madeleine.
Et comme le week-end dernier, les jeunes, notamment des clubs, étaient très motivés à l'idée de remporter des titres et de défendre les couleurs de leurs équipes comme lors des épreuves de relais ce matin.
Je m'appelle Abena, je suis du club CAJG, club athlétisme Jules Garnier, et on a fini première aux 4x 60 mètres minime fille.
Je m'appelle Micha Doré.
Je m'appelle Elena et on a fini premier, ça c'est super.
On est très contentes, ça c'est sûr. On était en train de cogiter pour savoir si on allait les battre ou pas, et puis finalement on a réussi, du coup on va rentrer content chez nous.
Oui, c'est toujours bien, ça va beaucoup de monde et on s'amuse beaucoup surtout.
On compte toujours, même si à la pluie, pour gagner la médaille d'or.
Des championnats de Calédonie qui avaient débuté le week-end dernier, vendredi et samedi, au stade Noumadélé à Magenta.
Quand les pongistes lâchent leur coup, c'est au tournoi d'Ultimate Ping, le tennis de table en version XXL, c'est bien ça, Mickaël ?
Exactement, une récréation pour la discipline, avec cette compétition mise en place par le comité provincial sud à la salle Jean Noyant. Les pongistes se confrontent sur ce dérivé du tennis de table, on vous l'a déjà expliqué sur notre antenne, une table aux dimensions doublées, en gros 4 tables assemblées, collées les unes aux autres, et le filet aussi doublé de 30 cm au lieu de 15, 2 rebonds autorisés pour la balle, oui, mais l'allongement de toutes ces dimensions se ressent forcément pour les pratiquants qui apprécient toutefois cet exercice.
C'est vachement sympa, ça réunit plein de gens de tous âges, de tous horizons, de tous clubs. Donc super, et puis c'est un sport qui est ludique, c'est accessible à tout le monde, c'est rigolo, on s'amuse, on peut taper plus fort qu'au ping-pong, et tout le monde s'éclate, et voilà, c'est super intéressant.
Ah, c'est net pour nous, et on joue contre les grands, et qu'en bas, ils n'ont pas trop d'expérience, sauf ceux d'Olympique qui nous bat. C'est plus grand la table, et ça change de nos habitudes, et voilà, ça, on vient pour se défouler. Le principe, c'est de s'amuser.
Le truc qui est net, c'est pour claquer bien fort. Puis moi et puis Claude, on est bien fort pour ça. Puis on bat tous les grands. C'est plus fatigant, ça.
J'ai essayé de motiver les mecs de mon club de Dumbéa pour en venir, quoi, parce que personne n'avait testé à part moi l'année dernière. Du coup, voilà.
Quand on est pratiquant, c'est quoi qui intéresse plus, qui change surtout par rapport au tennis ?
On fait du ping-pong normal. Du coup, c'est pas facile au niveau des distances. Même pour eux, pour la tactique, c'est pas pareil que nous. Eux, ils tapent. Nous, on met des effets, on essaie de couper pour bien ralentir le jeu et tout ça. Sinon, ça va vite pour nous.
L'amusement est au rendez-vous, notamment pour les plus jeunes, vous l'avez entendu, le responsable du comité provincial sud, Philippe Bonnefoy.
C'est une discipline qui est relativement nouvelle, ça fait 3 ou 4 ans qu'on organise ce type de compétition. La différence par rapport au tennis de table, c'est effectivement cette capacité de donner de l'énergie en plus, puisque quand on est en tennis de table, on est obligé de gérer en permanence. Avec là, on peut se lâcher physiquement et c'est complémentaire en fait. Le comité essaye d'innover également en proposant donc en fin d'année une compétition en e-ping, ping VR, virtual reality. Et j'espère qu'on sera suffisamment nombreux et qu'on pourra l'organiser pour changer un petit peu.
Et pour le tournoi du jour, une vingtaine de pratiquants étaient en lice à la salle Jean Noyant.
Un coup d'œil à présent, Mickaël, au reste de l'actualité sportive sur le territoire.
À Bonnet-Rouyn, Challenge Organisation proposait le raid du GR Nord sur le parcours phare de 20 km. C'est Liam Gilquin qui s'est imposé devant Côme Daval et Jérémy Marie. Elodie Huglot a terminé meilleure féminine. Tristan Baggio a terminé le mini-raid. Près de 400 concurrents étaient en lice. Et puis du football pour finir la 8e journée de Super League. Et Yenkensport qui l'a emporté face au leader Lossi, 3-0 aujourd'hui. Gaïcha et Tiga ont fait match nul, un but partout. En ce moment même, l'AS Mondor affronte Saint-Louis demain au stade Noumadélé. Horizon Pathos sera opposé à l'AS Cougnier à 13h. L'AS Magenta fera face au SC Negeu à 15h30. Et puis chez les dames, c'était aussi la reprise, le début de la saison. Un premier résultat, Païta et l'AS Wedge qui ont fait match nul aujourd'hui, 0-0.
Merci Mickaël, on termine ce journal avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et Ismaël, j'ai reparlé à mon petit doigt et il me dit qu'il y a de la vigilance dans l'air et que cette nuit, ça va pas être terrible.
Eh ben oui, une vigilance jaune, forte pluie orage, de Yaté à Puebo inclus pour des averses parfois fortes et localement orageuses, notamment en première partie de nuit. Cette nuit, enfin oui, si c'est ça, cette nuit.
Déjà.
Je vais y arriver. Mmh. Sur la façade est, la pointe sud est Loyauté. Les nuages restent nombreux, mais les précipitations s'estompent en deuxième partie de nuit. De bonnes averses se déclenchent encore localement, notamment sur le sud-est au début et sur les autres régions. Après quelques pluies en soirée, le temps s'assèche plus nettement et les éclaircies se développent. Sur l'ouest, le vent de secteur est mollit proche de 5 nœuds. Ailleurs, toujours d'est-sud-est, il est compris entre 15 et 20 nœuds et faiblit légèrement en cours de nuit, excepté sur la pointe nord et l'île des Pins, où il peut parfois dépasser les 20 nœuds. Pour le mercure, eh bien écoutez, il varie de 17 à 23 degrés.
Et pour demain, on nous prévoit grosso modo beau sur l'ouest et nuageux partout ailleurs ?
Exactement. Sur la façade ouest, le soleil l'emporte largement, surtout en matinée. Et ailleurs, les nuages sont plus nombreux avec des averses éparses, en particulier sur l'extrême sud et le sud-est, où des averses parfois modérées seront attendues. Elles gagneront également marée la nuit suivante et le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Localement, plus de 20 nœuds sur la pointe sud et l'île des Pins à marée. Et sur l'ouest, il sera temporairement plus faible en matinée. Et le mercure, eh bien écoutez, il sera stable ou en très légère hausse.
Entre 26 et 29 degrés. Merci.
Eh ben, dis donc, il en vient même à faire mon travail. Incroyable,
ouais, le petit doigt est magique. Merci Ismaël.